Bien, nous allons vous souhaiter un très bon réveil et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le Royaume-Uni commence à administrer aux personnes les plus vulnérables les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Un défi logistique accru par le Brexit, défi aussi pour convaincre le public. Nous serons à Londres dans un instant.
Pendant ce temps, la France voit s'éloigner le cap des 5000 cas de contamination quotidienne, cap fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement au 15 décembre.
Faut-il des restrictions supplémentaires face à un risque élevé de rebond épidémique ? L'exécutif se retrouve face à un nouveau dilemme avant les fêtes de fin d'année.
Et puis à la une encore, le procès des attentats de janvier 2015.
Place aux réquisitions pour les 14 accusés décrits comme la cheville ouvrière des attaques. Et puis au Sénégal, le verdict doit tomber ce matin pour trois pères de famille accusés de complicité de trafic de migrants pour avoir tenté de donner une vie meilleure à leurs enfants en les plaçant dans une pirogue direction l'Espagne fin octobre. L'un de ces adolescents, Doudou Faye, footballeur de 14 ans qui rêvait d'une carrière en Europe, est finalement mort d'épuisement pendant la traversée.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour. Catherine, la liberté de la presse française est-elle menacée ? Je poserai cette question à Christophe Deloire. Il est secrétaire général de Reporters sans frontières.
La France sera-t-elle déconfinée avant Noël ? Ou bien faudra-t-il interdire des rassemblements pour les fêtes comme au Québec ? On devrait en savoir un peu plus jeudi soir. Jean Castex devrait animer une conférence de presse sur la stratégie à adopter face au Covid dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors qu'Emmanuel Macron avait fixé le cap des 5000 contaminations quotidiennes pour lever le confinement au 15 décembre. Cet objectif sera très difficile à atteindre, a prévenu hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors d'un point presse suivi par Sarah Ders.
Jérôme Salomon alarme sans être menaçant, les chiffres ne sont pas bons.
Depuis quelques jours, le niveau de contamination quotidienne ne baisse plus et reste particulièrement élevé chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Plus de 10 000 nouvelles personnes sont testées positives contre 5 000 par semaine au cœur de l'été. Aujourd'hui, 26 365 malades de la Covid sont hospitalisés, dont 3198 en réanimation.
Les Français se sont très bien comportés, rassure le directeur général de la Santé, mais cela ne suffit pas.
La saison hivernale sera très difficile. En effet, nous vivons davantage à l'intérieur. Les conditions d'humidité, de température font de l'hiver la saison idéale pour la propagation des virus à transmission respiratoire.
Jérôme Salomon souhaite éviter un effet Thanksgiving, comme au Canada et aux États-Unis, et un rebond des contaminations au Covid-19 au lendemain des fêtes de fin d'année. L'espoir de vaccination, conclut-il, est bien réel, mais ne produira ses effets que dans de nombreux mois.
Pour lutter contre un rebond épidémique, le Royaume-Uni, lui, lance aujourd'hui sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec les doses fournies par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, une première campagne de vaccination dans un pays occidental. Ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus exposées qui vont recevoir ces premières doses, c'est-à-dire les plus de 80 ans et les soignants. 400 000 personnes à vacciner d'ici le printemps, puisque le Royaume-Uni va recevoir 800 000 vaccins et qu'il faut deux injections à chaque fois. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Londres, où cette campagne de vaccination représente donc un énorme défi logistique.
Oui, puisque le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés. Il ne peut rester que 5 jours dans un réfrigérateur normal. Et il faut limiter les temps de transport. Cette préparation est fragile, sachant qu'elle arrive de Belgique, c'est là qu'elle est fabriquée. Il y a donc 50 centres hospitaliers dans le pays qui ont reçu les doses et c'est là qu'elles seront administrées. C'est aussi pour cette raison que les pensionnaires des maisons de retraite, qui figurent parmi les personnes prioritaires, ne recevront pas le vaccin immédiatement. Il faut auparavant trouver le moyen de leur apporter dans de bonnes conditions.
Il n'y a aucune obligation de vaccination, Richard. Les autorités vont donc devoir convaincre les sceptiques et ils sont nombreux.
Le Royaume-Uni s'est glorifié d'être le premier à donner cette autorisation. Dans la foulée, les doutes sont apparus, proférés par Anthony Fauci, par exemple. L'immunologue de la Maison-Blanche a d'abord affirmé que l'agence britannique avait précipité cette approbation avant de se rétracter. Trop tard, cette affirmation, plus quelques autres, ajoutée à la défiance de l'époque, et voilà une part des Anglais pas certains de vouloir ce vaccin, comme Fiona, maman d'une petite fille. Elle n'est pas prioritaire, mais si elle pouvait recevoir les injections aujourd'hui, elle refuserait.
Je ne suis pas trop sûre.
Comment ont-ils mis au point un vaccin si vite ? Je serai plus confiante quand les gens du NHS l'auront reçu.
si tout se passe bien. Je veux voir si ça les aide ou au contraire, si c'est pire. Peut-être, ensuite, je me sentirai plus en confiance.
Les autorités sanitaires savaient qu'il y aurait des réfractaires sans en connaître la proportion. Alors pour convaincre, la reine Elisabeth II et son mari, le prince Philippe, sont appelés à la rescousse. Ils seront vaccinés prochainement, peut-être même en public, pour en faire la publicité. Une campagne de promotion est même envisagée avec des célébrités comme le footballeur Marcus Rashford ou le guitariste des Rolling Stones, Ron Wood.
Richard Place à Londres pour France Culture, où la campagne de vaccination pourrait être aussi compliquée par le Brexit. En cas de non-accord et de contrôle douanier renforcé, les autorités craignent des embouteillages monstres, des milliers de camions sur l'autoroute qui remontent des ports de la Manche. Le gouvernement a déjà annoncé que les vaccins constituaient une marchandise prioritaire. Si besoin, la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, sera appelée à la rescousse pour effectuer les livraisons. En attendant, les négociations sur le Brexit sont toujours dans l'impasse, bloquant sur les mêmes points les règles de concurrence, la pêche et la façon de régler les différents commerciaux. Après un nouvel échange téléphonique entre Bruxelles et Londres hier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu'il se rendrait dans les prochains jours à Bruxelles pour négocier directement avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. La pression monte donc à 3 semaines de la fin de la période de transition et l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, centriste, membre du Renew, estime que si le Royaume-Uni ne bouge pas dans ses positions pour aboutir à un accord post-Brexit avec l'UE, les négociateurs ont tout intérêt à se revoir l'an prochain. On assumerait donc un no deal, un non-accord avec des conséquences économiques certes douloureuses, mais pour Nathalie Loiseau, il vaut mieux cela qu'un mauvais accord.
C'est assez curieux de trouver en face de nous des Britanniques qui, eux, sont beaucoup dans l'idéologie, dans l'affichage politique. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure Boris Johnson peut bouger. On voit bien qu'il n'a pas envie de porter lui-même la responsabilité d'une absence d'accord, mais on voit aussi qu'il ne fait pas l'effort suffisant pour qu'il y ait un accord. S'il n'y en a pas, il faut dédramatiser. Si les esprits ne sont pas mûrs à Londres pour un accord avant le 31 décembre, il faudra laisser le temps aux esprits d'évoluer et on reprendra la discussion en 2021. Ce serait une absence d'accord, donc ce serait une situation qui n'est pas celle que nous souhaitons, qui aurait des conséquences négatives de part et d'autre, auxquelles il faut se préparer. Il faut aider en particulier les secteurs qui seraient les plus impactés. Je pense évidemment d'abord au secteur de la pêche. Personne ne souhaite que ça arrive. Mais honnêtement, si les esprits ne sont pas mûrs à Londres pour un accord aujourd'hui, un bon accord, celui qui protège nos intérêts, eh bien on reprendra la conversation plus tard.
L'eurodéputée centriste Nathalie Loiseau, elle répondait à Angélique Boin. Pour l'instant, le gouvernement britannique exclut de reprendre l'an prochain les négociations commerciales post-Brexit.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu au procès des attentats de janvier 2015, suite et fin du réquisitoire du parquet national antiterroriste, attendu donc aujourd'hui.
Les avocats généraux vont se prononcer sur les peines des 14 accusés, dont le principal Ali Rizapola, complice selon le parquet antiterroriste et bras droit d'Amédi Coulibaly dans tous les préparatifs des attentats. Il encourt pour cela la réclusion à perpétuité, on y revient dans le journal de 7h30. Au Sénégal, le verdict doit tomber ce matin pour les 3 pères de famille accusés d'avoir embarqué leurs enfants dans une pirogue clandestine pour l'Espagne, c'était fin octobre. Une accusation peu banale pour une affaire qui avait secoué tout le Sénégal, car un adolescent, Doudou Faye, alors âgé de 14 ans, est mort en mer pendant cette traversée. Il rêvait de devenir footballeur professionnel en Europe. Une correspondance signée Théa Olivier.
Le père de Doudou Faye est accusé de complicité de trafic de migrants et de mise en danger de la vie d'autrui. Il a reconnu effectivement avoir donné à un passeur 250 000 francs CFA, un peu moins de 400 euros, pour mettre son fils dans une pirogue clandestine à destination de l'Espagne, pirogue dans laquelle l'adolescent est décédé. Le père de Doudou Faye a assuré avoir regretté ce geste lors de l'audience de la semaine dernière. Pour son avocat, Maître Hassan Diomandiaye, son client est victime et non coupable.
Lui, il ne fait qu'adhérer à un contrat, mais il n'est pas complice. Le complice, c'est celui qui aide l'organisateur ou qui lui fournit des moyens, mais l'infraction de complicité ne nous paraît pas adéquate. Et d'autre part aussi, la mise en danger également ne nous paraît pas pertinente. Le père, il espérait un avenir meilleur pour son enfant. En aucun cas, en agissant, il n'a pas la conscience d'envoyer son enfant vers la mort.
Deux autres pères de famille ont été accusés de faits similaires. Si l'émigration de mineurs n'est pas une nouveauté au Sénégal, ces accusations contre les parents, en revanche, ne sont pas habituelles. Toujours selon Maître Ndiaye.
C'est la première fois que je vois le parquet taper sur les parents dans le domaine de l'émigration clandestine. En tous les cas, un tel dossier aurait eu davantage d'efficacité si on avait pu identifier et poursuivre les passeurs, les organisateurs, le propriétaire de la pirogue, les principaux responsables, les principaux coupables.
Alors que son client risque 2 ans de prison ferme, l'avocat a demandé sa relaxe.
Théa Olivier au Sénégal pour France Culture. Le président égyptien Al-Sisi poursuit sa visite en France aujourd'hui, mais les déclarations d'Emmanuel Macron hier à côté de son homologue égyptien ont suscité une vive réaction chez les ONG quand le président français a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de conditionner les ventes d'armes et les contrats économiques aux droits de l'homme. Pour Bénédicte Jeannereau, qui dirige l'ONG Human Rights Watch en France, cette prise de position nuit gravement à la crédibilité de la France.
L'écart entre les paroles et les actes nuit à la crédibilité de la France en matière de diplomatie des droits humains, précisément à un moment où elle fait la promotion de son rôle au Conseil des droits de l'homme, où elle vient d'être élue, et pour lequel elle a fait une campagne très active pour la protection des défenseurs des droits, pour la protection des libertés fondamentales. Et le fait que la France ne tienne pas ses engagements dans une relation bilatérale comme celle qu'elle entretient avec l'Égypte est extrêmement problématique et nuit, encore une fois, à la crédibilité de ses positions sur la défense des droits humains sur la scène internationale à un moment où ils sont gravement attaqués par des pays qui veulent se débarrasser du cadre du droit international et du multilatéralisme en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire.
Bénédicte Jeannereau qui dirige l'ONG Human Rights Watch au micro de Christian Chesneau. C'est l'une des acquisitions les plus importantes de l'histoire de la musique. Une nouvelle étape d'une bataille en cours dans l'industrie du disque. Come gather round people wherever you roam. Universal Music a acheté pour 300 millions de dollars l'intégralité des droits du catalogue de l'auteur-compositeur américain Bob Dylan. Plus de 600 titres concernés. Bob Dylan a vendu plus de 125 millions d'albums au cours de sa carrière, repris plus de 6000 fois par des centaines d'artistes. Ce catalogue représente donc une petite mine d'or pour Universal Music. Alors que l'on entend en ce moment The Times They Are Changing de Bob Dylan, l'opération annoncée hier s'inscrit dans une bataille engagée depuis plusieurs années pour acquérir les catalogues les plus prisés de la musique moderne. Primary Wave avait acquis vendredi 80% des droits du catalogue de la chanteuse du groupe de Fleetwood Mac, Stevie Nicks. C'était pour 100 millions de dollars, 300 millions aujourd'hui pour Bob Dylan. Quelques mots du temps de ce mardi 8 décembre, gris et froid, la neige va tomber en montagne. Au meilleur de la journée, il fera entre 3 et 7 degrés du nord et du nord-est jusqu'aux Alpes et au Massif central. Comptez de 7 à 11 sur les côtes et jusqu'à 14 en Corse, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans une dizaine de minutes, le reportage de la rédaction nous fera découvrir comment des journalistes sont espionnés, traqués par des logiciels de vidéosurveillance au Mexique par les autorités et par des narcotrafiquants. Et justement, dans quelques instants, nous serons en compagnie de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. La liberté de la presse en France est-elle menacée ?